Bonjour, Olivier de Sipibus au micro sur Radio Diwa 107.5 que l'on retrouve bien sûr sur internet www.radiodiwa.fr. Alors, je vous propose une série d'émissions que je vais consacrer à des artistes plasticiens de la vallée. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Elisabeth et Émile Cieslard. Elisabeth, bonjour.
Bonjour Olivier, je suis content de te voir.
Également, bien sûr. Alors, Émile décide de ne pas, pour l'instant, intervenir. Décision qu'on respecte, évidemment. Elisabeth, justement, on va évoquer votre parcours artistique, qui est très riche. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je vais te présenter très succinctement. Tu es né un 3 décembre 1934 à Varsovie. Et tu as fait l'école des beaux-arts à Varsovie dans les années 50. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a conduit à choisir cette voie dans les années 50 dans cette Pologne communiste? Et pourquoi tu t'es orienté plutôt sur les arts plastiques, enfin sur l'art?
Je suis rentrée à l'école de Beaux-Arts en 1955. C'était un an avant le dégel qui est arrivé chez nous avec l'année 56, où une révolte en Hongrie et en Pologne a apporté un dégel. Mais à 55, au moment que je rentrais à l'école de Beaux-Arts, pratiquement le chape d'interdit de dire et de communiquer était tel que je suis née comme quelqu'un qui veut communiquer. Et c'est, on ne pouvait pas être un journaliste sans être complice avec le régime.
Et donc,
Donc l'art visuel me semblait un terrain où on peut dire sans affronter directement la censure.
d'accord. Donc, c'était dès le départ, il y avait cette idée de manifester son propos, sa liberté
De communiquer.
de communiquer. Ouais.
Ouais.
La question de l'expression
Tout à fait.
dès l'adolescence.
Tout à
Et
fait.
aux Beaux-Arts, quel art on vous a appris? Qu'est-ce qu'on vous apprenait? Quel professeur
Donc
ou quel artiste
à
vous ont...
partir de 56, avec le dégel, il était possible d'étudier chez certains professeurs qui avaient une relation avec l'art occidental. C'était donc le professeur Jerzy Janouszkiewicz, Oskar Hansen chez Jerzy Sauten, qui après il est enseigné à Harvard. Oskar Hansen était en France, travaillait avec Le Corbusier. C'est à l'époque encore, c'était difficile d'avoir accès à la documentation de l'art avant la guerre, les livres étaient dans la bibliothèque, mais il fallait avoir des relations privilégiées avec les personnes documentalistes des bibliothèques pour avoir accès à cette documentation de l'art ancien, de l'art pour nous ancien, parce que c'est l'art de nos grands-parents et de nos parents.
Alors, qu'est-ce qu'on vous enseignait? C'était quel art qu'on vous enseignait? C'est-à-dire que vous appreniez à dessiner, à peindre, à sculpter. C'était plutôt des installations, c'était plutôt de l'art dit moderne. C'était...
Le mot installation et la forme d'installation n'existaient pas pratiquement. Peut-être c'est la mienne qui était la première, mais c'était fait. 60, l'année 1960, à la fin de mes études. À l'époque, le programme d'école des beaux-arts, c'était de sculpter comme on sculptait au XIXe siècle. C'est-à-dire, il y avait un modèle et les élèves faisaient donc l'acte de corps humain.
D'accord.
Moi, je me vante de ne jamais faire ce travail de con.
donc,
Et c'est justement grâce de Jerzy Janouszkiewicz que c'était possible.
parce que lui, du coup, il vous enseignait autre chose.
Du coup, il laissait
Il essayait.
tout faire aux étudiants. Mmh. C'est l'étudiant qui décidait qu'est-ce qu'il voulait faire, et c'est dans cette liberté que lui nous a donnée, nous avons été nés.
D'accord.
Comme peut-être artiste.
D'accord.
Pardon.
Donc, tu obtiens ton diplôme ?
En 61.
En 61. Et dans la Pologne communiste, on travaille ?
On travaille.
Il n'y a pas de chômage ?
Ah oui, il n'y a pas de chômage, mais ce n'est pas la même chose pour le cursus après l'école des élèves. Les artistes ont toujours mal à trouver le boulot, même dans ce pays communiste.
Et tu t'orientes à ce moment-là vers le design ?
Oui, oui, c'est encore avant, étant étudiante de troisième année, avec les groupes de six amis des différentes facultés de l'école des beaux-arts, que nous avons réussi à créer la première association des designers en Pologne. Ça a pris quelques années avant d'avoir le droit d'être reconnu par l'État. 2 ans, on a travaillé avec les politiques pour qu'ils acceptent qu'il y a quelques personnes qui veulent faire le design.
D'accord. Et votre idée de faire du design par rapport à un projet artistique, quelle était la différence ?
C'était d'une part dans ma tête, je dis de moi, quoi, parce que je ne peux pas parler des autres. Dans ma tête, c'était tout ce qui était fait dans l'industrie polonaise pour la consommation quotidienne des personnes était déjà agressif. Que si tu achetais un poignet pour tes portes, le poignet faisait les coupures de ta main. C'était tellement mal fait.
Il n'y avait rien d'adapté.
Et oui, il n'y avait pas le soin de penser des gens.
D'accord.
Et donc ça me semblait déjà un avancement de reconnaître le droit des personnes vivant dans ce pays d'avoir beau et d'avoir utilitaire bien.
D'accord. Et vous avez donc, j'imagine, travaillé avec des industriels avec,
tout à fait. Après les études, je suis rentrée dans l'Institut de design, justement, qui était à Varsovie, mais que jusqu'à cette époque, s'occupait plutôt d'architecture d'intérieur, c'est-à-dire que faisait les projets des chaises, des bureaux, pour les classes ou ailleurs, et le tissu.
D'accord.
Et c'était la première génération qui rentrait avec la possibilité de travailler avec l'industrie qui produisait les objets comme les montres, comme les volets, les choses qu'on utilise, comme le fer à repasser, comme la voiture, le
camion. Fer à repasser qu'on va retrouver très bientôt. Et à partir de là, il y a une déception, je crois. Lorsque tu te mets à travailler, il y a une déception, il y a les conditions aussi politiques, j'imagine.
D'une part, la déception, c'est surtout que le projet fait pour trouver la réalisation et se trouver sur le marché, c'était presque impossible avec toute la bureaucratie qui existait et qui imposait aux usines de faire ça et pas l'autre chose. Moi, j'avais l'impression que je ne serve à rien, que je me cache la réalité, que mon temps de consacrer au projet va à la fin dans la poubelle. Quoi.
Ouais. Et à quel moment tu te mets à travailler avec la télévision ?
C'est à ce moment-là ? C'est à la fin, c'est beaucoup plus tard, c'est à 73.
D'accord.
La première.
D'accord. Et en même temps que. Donc il y a cette déception avec le design, le travail, il y a un travail artistique qui continue à.
C'est-à-dire, dans ce temps-là, de ces 2 ans à l'Institut du design, j'ai eu certains succès auprès des ingénieurs des usines qui nous ont donné la possibilité, après, de travailler avec eux dans le cadre. Je dirais entre guillemets privé, c'est-à-dire qu'eux, ils commandaient un projet à travers une coopérative artistique qui nous donnait la commande.
D'accord.
Et ça, c'était possible jusqu'au 76, où, après la révolte ouvrière de Radom et Ursus, on était, nous, interdits du travail. C'est-à-dire qu'on a perdu le travail, Émile à l'école de Beaux-Arts, moi à la télévision et au théâtre, et on n'a pas eu le droit de faire les projets design aussi.
Mais là, tu anticipes.
Ouais,
on va revenir. Ouais,
mais
tout
oui,
à fait.
Mais il ne faut pas parler de trop, quoi.
Non, ouais. Alors, on va arriver sur le vif du sujet, c'est-à-dire ce que vous avez initié à la lutte pour laquelle vous avez combattu dans les années 70 à Varsovie. Et cette lutte politique s'est faite avec l'art plastique, dans l'art plastique, dans les arts en tout cas, et dans la création d'une galerie qui s'est appelée Repassage, qui était la première et l'unique galerie indépendante.
Non, c'est pas la première.
Excuse-moi. Donc, qui était en tout cas la galerie indépendante de Varsovie, qui n'était pas la première, donc je vous rectifie.
Bon, cette formulation, la lutte politique, aujourd'hui, en regardant en arrière, on peut accepter. Mais en réalité, c'était pas la lutte politique, c'était la lutte pour se défendre soi-même, pour devenir soi-même et pour laisser la place aux autres de devenir d'eux-mêmes aussi. Et on ne considérait pas comme une lutte politique, cette action que nous avons menée, mais comme une réalisation des choses évidentes qui vient de fond de notre esprit et qui permet aux autres aussi d'exister librement. C'était pas dirigé, on n'avait pas l'idée de diriger notre action contre jusqu'au le dernier moment de notre séjour dans ce pays. C'est seulement au dernier moment, on était tellement en colère qu'on commençait à penser politique.
D'accord. Mais donc c'était effectivement une résistance à une oppression.
Tout à fait.
Clairement. Enfin, qui agissait clairement sur vous, cette oppression.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce qu'en même temps, il y avait les autres personnes qui vivaient dans ce pays, qui mûrissaient à peu près au même rythme que nous, et qui commençaient à mener la lutte politique. On s'est joint à eux, mais c'était marginal. Yes. We'll be right back.
C'était Dizzy Gillespie, Dizzy Atmosphère, toujours sur Radio Diwa 107.5. Et toujours en compagnie de Elisabeth et Émile chez Slar. Nous étions en train d'évoquer, enfin nous évoquions justement l'ouverture de cette galerie à Varsovie. Alors peux-tu nous raconter de quelle manière cette galerie s'est ouverte et après quel était ce que vous présentiez comme artiste et comme travail?
C'était 44 mètres carrés qui étaient dans le bâtiment appartenant, géré par le syndicat des étudiants. Avant nous, déjà, il y avait toute une année dans laquelle les autres personnes essayaient d'utiliser cette locale pour présenter les choses qui ne pouvaient pas être présentées dans les galeries officielles de l'État. Il n'y avait pas les galeries privées à l'époque, il n'y avait rien de privé, tout était d'État. Et c'est donc les fonctionnaires d'État qui décidaient quel art peut être présenté aux Polonais. Et ça commençait par les autres, et donc à la fin de 72, entre ces personnes, il y avait décision de donner le pouvoir à une personne dans cet espace. Et ils m'ont élu comme la directrice. En bref, c'est ça. Et mon idée, qui était directement la conséquence de ce qui se passait dans l'art, dans l'espace public de l'art à l'époque, c'était de donner cet espace à tout le monde qui voudrait bien présenter quelque chose et qui ne pouvait pas le faire dans l'espace public de l'État.
Alors, comment...
Donc, il n'y avait pas de choix de ma part, ni d'Emile, avec qui j'ai mené cette galerie. Chaque personne qui présentait une proposition pouvait prendre l'espace pour une semaine. En conséquence de quoi, le nombre des exposants dans l'année était grande.
C'était énorme, oui. Et donc, ça se passait comment avec les autorités, puisqu'il pouvait y avoir des actions subversives? Si toi, tu donnais espace libre...
À l'époque, il y avait le décret ou la loi, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle en forme juridique, qui interdisait quelconque manifestation publique sans avoir l'accord de la censure. Moi, tout simplement, j'ai pas demandé le censeur de voir ce qu'on expose en niant l'existence de cette loi. Ça a pratiquement fonctionné pendant un an et demi, comme ça.
Vous étiez étonné que, justement, la censure, les autorités ne venaient pas vous visiter ou ils venaient vous visiter déguisés en visiteur?
C'était seulement... Le fait qu'ils ont, au bout d'un an et demi, venu, c'était la consécration de nous.
Ah, enfin.
Enfin.
Vous voilà.
Ça signifie que ça a un sens.
D'accord.
Qu'ils commencent à avoir peur un peu de cet espace. C'était ça.
Et alors, on va parler des œuvres.
J'ajouterais seulement que, à cette époque aussi, j'ai réussi à avoir une subvention du ministère de Culture pour éditer les petits catalogues. Et c'est à ce moment-là qu'aucun imprimeur n'avait pas le droit d'imprimer quoi que ce soit s'il n'y avait pas le tampon. Et c'est à ce moment-là que j'étais obligé, pour produire la mémoire de lieu, de passer par le censeur.
Pas la censure.
Ouais.
Bon. Alors, vous êtes des artistes, donc vous produisez des œuvres, évidemment. On va en présenter une première qui est importante, je crois, qui s'appelle le carrousel des attitudes, qui est un polyèdre. Vous l'avez réellement fabriqué. Il est en bois, c'est ça? Et c'est un polyèdre, donc il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5...
Octaèdre,
un octaèdre. Donc 12 côtés, octas, c'est ça ?
Octas, c'est 8.
Mince. 8 côtés. Donc, un octaèdre qui a 8 côtés. Et tu peux nous le décrire
La raison
de cette création.
Je pense que c'est bien que je dise pourquoi.
Vas-y.
Et comment.
Vas-y.
À cette année-là que nous avons fait, 75, il y avait un congrès d'AICAD, c'est-à-dire d'organisation qui lie les critiques d'art occidentales.
Occidentales.
Ouais.
Qui avait. Et donc des Français sont venus.
Oui, aussi, entre autres. Qui avait donc le congrès avait lieu à Varsovie et que à cette occasion. Il y avait une exposition dans la plus grande galerie, la plus importante galerie de Varsovie, des artistes qui étaient admis par l'État. Et ce qui était pour nous provoquant, c'est que les décisions qui va exposer devant les experts internationaux leurs œuvres étaient prises sur la liste décidée, on ne savait pas de quels critères et pourquoi ceux et pas les autres. Mmh. Et c'est comme ça que nous avons commencé à réfléchir sur les critères que décident sur les choix des choses, aussi bien dans l'art que dans la vie quotidienne. D'accord. Et comme on était artiste, on a passé directement à formuler les différentes directions dans l'art qui nous entourait de cette époque-là.
D'accord.
Et on a donné donc ces noms, l'art et l'art pour l'art conceptuel, qui est pratiquement une absurdité qui vient de rien dire.
Alors, juste, je pour être clair, là, tu expliques de quelle manière fonctionnent les attitudes le carrousel des attitudes. Donc, et vous avez identifié six attitudes différentes dans l'art,
ouais.
D'accord ? Et chacune de ces attitudes est située à chaque pointe de ce polyèdre. D'accord.
À chaque sommet, oui.
Donc, au sommet A, il y a l'art et l'art.
Lis peut-être d'accord. Ça, parce que donc, tu vas être correct en français, et ben voilà. Okay.
Donc, en sommet A, vous avez déterminé l'art et l'art. Et EST, l'art et l'art. Il y a en F, donc un autre sommet de ce polyèdre, l'art et utopie. Un autre sommet, c'est l'art et fétiche. Un autre, c'est l'art et affaires d'argent. Un autre, c'est l'art et œuvre. Et l'art et fonction. Donc, on a que six attitudes. Art, utopie, fétiche, fétichisme, argent, œuvre, fonction. Six attitudes différentes que l'on peut avoir en tant qu'artiste ou dans le monde de l'art.
Et à l'intérieur, il y a la diagonale qui lie les sommets de cet octaèdre. En créant donc l'espace de raison entre A et D.
Voilà. Et selon où on se situe, on sera plutôt vers
raison, vers l'essence.
Voilà. Oui. Vers l'utopie, vers le fétichisme, vers l'argent, etc.
Tout à fait.
Et donc, ce qui est très rigolo, c'est que vous avez, à partir de là, vous avez classé un certain nombre d'artistes. Pour ceux qui s'intéressent à l'art visuel, qu'on les connaît tous, hein. Ils sont connus. Vous êtes classé aussi, évidemment, hein, parce que tout ce que vous appliquez aux autres, vous l'appliquez à vous-même.
Ça, c'était la suivante. La première chose, c'est qu'on a essayé l'idée de classement avec les gens qui passaient dans la galerie. Donc, on s'adressait aux artistes même, qui se situent par rapport de sommet que nous avons mm-hmm. désigné de cette façon-là. Mm-hmm. Et d'abord, c'est les amis et les connaissances des artistes qui se situaient par rapport de ça. Et c'est qu'à la suite, pour joindre notre réflexion à ce qui se passait dans le monde de l'art occidental, nous avons attribué aux artistes les points à l'intérieur de cet octaèdre.
D'accord. Alors,
c'était un jeu qui durait quelques mois avec, à l'intérieur. C'était un endroit de rencontre. En effet, on discutait de l'art et de motivations qui nous décidaient, nous les artistes, décidaient de faire cette ou l'autre forme. Et c'est donc, c'est pas seulement de les mettre, mais c'est eux-mêmes qui se mettaient et qui étaient obligés de dire les motivations qui le mettaient à cet endroit-là.
Ouais. Alors, Émile, alors, pour ceux qui seraient curieux de découvrir ces œuvres, nous sommes en train de feuilleter, enfin, nous avons devant nous un catalogue important qui retrace toute votre vie, enfin, jusqu'au moment où le catalogue est édité, parce qu'ensuite, il y a eu d'autres œuvres. Et donc, Émile et Elisabeth habitent à Die. Et pour ceux qui seraient intéressés de rencontrer Émile et Elisabeth de façon physique et discuter avec eux, ou de voir tout simplement les œuvres, ils ont une galerie. Qui se trouve...
À 25 rue Émile Laurent.
Voilà, 25 rue Émile Laurent. Et vous êtes tout à fait convié à...
Dès que les volets sont ouverts, voilà. Suffit de sonner repassage.
Voilà. Et sinon, si vous ne vous souvenez plus, prenez contact avec la radio et on vous donnera toutes les coordonnées avec plaisir. Car effectivement, ce sont évidemment toute œuvre visuelle est à voir et c'est une grande chance de vous avoir vous physiquement parce que vous pouvez encore expliquer de façon très vivante tout votre travail. Il y a un autre travail après que je trouve très intéressant, c'est ce que vous avez fait avec les chaussures.
Oui.
Et l'éléphant aussi, qui est assez impressionnant d'ailleurs.
L'éléphant, c'était une des premières choses que nous avons fait dans cette galerie. C'était une action pour dire aux gens qui nous entouraient que rien n'a pas grande importance. On peut faire quelque chose de papier Bristol, on peut réfléchir et imaginer les choses impossibles. La tête d'éléphant, 2,5 fois plus grande que naturelle, qui remplit totalement l'espace. Et le rose, pas comme en France, rose, parce que en France, le papier, l'éléphant rose, ça liait au alcoolisme, tout simplement.
Ah, l'éléphant rose. Ah oui, c'est quand on est... Oui, effectivement. En cas d'ébriété ou de prise
que,
de...
Tandis qu'en Pologne, l'éléphant rose...
L'éléphant rose n'a pas la même symbolique.
C'est absolument pas. C'est quelque chose... C'est un bibelot... sans importance, absurde, comme toute la vie qui est absurde. Mmh. Et c'est cette absurdité de notre vie,
que vous
de
grossissez.
Toute action qui te mène, c'est absurde de toute façon. On n'a pas aucune preuve que ton choix est bon.
Ouais.
Et donc, on fait quelque chose qui est tellement absurde que ça saute aux yeux. Mmh. Et l'éléphant sortait son...
Enfin, c'est absurde, mais du reste, vous faites ça avec... enfin, il est beau, cet éléphant. Il devait être très impressionnant dans cette galerie.
Ouais.
Alors, l'éléphant, pour préciser, vous avez fait la tête. Hein, donc,
que la tête.
La tête et la trompe, qui est quand même assez énorme.
Les oreilles, tout ça avec les épingles.
Et tout ça avec des épingles et de nombreuses
heures
de travail.
Après, déplier et rouler. Et il est toujours à Die.
Il est toujours à Die, donc on pourrait le déplier et le montrer.
Le montrer. Mais il faut quand même 44 mètres carrés et 3,50 mètres d'hauteur.
Ouais, c'est pas très compliqué, il y a des hangars ici. Alors, les chaussures, c'est une performance, ça, pratiquement.
Bah ça durait encore plus longtemps que notre séjour en Pologne, parce que les gens qui ont repris la galerie après notre... Donc je répète, ça va bon, je répète quand même. Donc, les chaussures, à l'époque, acheter une chaussure, c'était un chemin de combattant. D'abord, il n'y avait pas de chaussures, et si jamais... On jetait, c'est ça l'expression qui était utilisée, les chaussures dans un magasin. Il y avait tout de suite la queue de 100 personnes qui attendaient et était à peu près sûr qu'avec la dimension de mes pieds 41, je ne trouverais pas la chaussure féminine. Donc, ça venait un petit peu de ça.
Donc, la chaussure était un problème pour
eux. Les chaussures
étaient compliqué un problème. Ça
nous faisait penser aussi. Parce que l'effet de ça, c'était que je cherchais les chaussures chez les autres personnes qui arrêtaient les utiliser. Donc, j'ai rencontré les traces dans ma chaussure nouvelle donné par quelqu'un à moi, les traces de celui qui l'a porté.
Alors, l'installation, explique bien l'installation. Comment ça se présentait dans la galerie?
Dans la galerie, donc, on a s'adressé d'abord aux plusieurs personnes de nous donner leurs chaussures avec acceptation que leur nom est accroché,
accroché à la chaussure.
À la place de prix, quoi.
D'accord.
De ticket de prix. Donc. Et tous les autres personnes qui passaient à côté pouvaient échanger leurs chaussures en laissant les siens et prenant celui qui nous a été donné.
D'accord.
Et cet échange des chaussures a duré, c'était quand, la 75, nous sommes partis à 68 et la galerie 78 et la galerie était fermée à 81 par la police lors de l'état de siège. Et jusqu'à cette année-là, l'échange des chaussures a continué toujours, parce que toujours manquait des chaussures. Et là, il y avait un état de quelques cents chaussures qu'on pourrait échanger. Mais ce qui est peut-être derrière, ce n'est pas seulement le côté pratique ou utilitaire qui est lié à cette initiative. C'est surtout que c'est une rencontre d'un pied à l'autre. C'est les traces de ces gens qui impose à réfléchir pourquoi il marchait comme ça et pourquoi l'autre marchait autrement. Et cette idée-là, c'est ça qui était important jusqu'au point que au moment que nous avons été invités à faire une exposition rétrospective en 2002, les gens qui nous rencontraient dans nos connaissances qui nous rencontraient à l'époque nous disaient « c'est pas possible ». Que vous ne montrez pas des chaussures, mais les chaussures étaient brûlées comme toutes les autres choses que la police a trouvées dans cette galerie en 81. Donc nous nous sommes adressés aux fabricants des chaussures. Nous nous sommes arrivés à avoir un certain nombre de chaussures neuves et on a changé ces neuf chaussures avec les gens qui ont été hébergés par une sorte d'Emmaüs.
D'accord.
En Pologne, et donc on a exposé les chaussures des gens sans abri, quoi.
Ça, c'était en 2002.
Ouais.
Voilà. Alors, entre 2002 et 1978, il y a une période, voire à partir de 1918, s'ouvre une nouvelle période pour vous. On peut dire que vous avez fui la Pologne sur une décision assez rapide, d'ailleurs, je crois. Et vous êtes venu en France. Et arrivé en France, une nouvelle vie démarre. Les motivations, enfin, on imagine pourquoi vous avez fui la Pologne. C'est parce que vous fuyez certainement le régime d'oppression dans lequel vous viviez. Le régime politique, en tout cas. Arrivé en France, qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce que vous décidez de faire? Et déjà, qu'est-ce que vous trouvez arrivé en France, à Beaubourg? Il y a quelque chose qui vous...
Oui, c'est pas tout de suite, c'est pas 78, 79.
Mais oui, c'est 79.
À Beaubourg, il y a une exposition de l'art avant-garde soviétique qui était gardée dans les caves d'Hermitage de Pétersbourg, et à quelle les Soviétiques n'avaient pas le droit. Mais les Parisiens...
N'avaient pas accès, je rectifie. Donc les Russes n'avaient pas accès à cette collection fantastique qui était dans les caves de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg.
Tout à fait. Et c'est donc la première fois que c'était montré au vu de monde.
D'un public, mais en France.
Mais en France.
Dans un échange franco...
Soviétique. Franco-soviétique. Et
juste donc, une petite précision, c'était sous le président Valéry Giscard d'Estaing.
Tout à fait.
Voilà.
Bon, il faut dire qu'on a trouvé dans le Figaro un titre, Paris, Moscou, histoire d'amour.
Dans le Figaro, aujourd'hui, ça, bah, ça fait rire, quoi.
Et évidemment, nous sommes allés voir cette exposition. Il était édité par les Français, par le ministère de Culture française, un catalogue dans lequel il était dit que Mendelstam, le grand poète avant-gardiste d'Union soviétique, a disparu sur le terrain d'Union soviétique. Il était mort au goulag. C'était cet mensonge de ce catalogue, par omission de dire vrai, qui nous a provoqué aussi plus ce titre. Mm-hmm. C'est Paris, mm-hmm. amour. Tu vois, mm-hmm. Paris, Moscou, amour. Et donc...
Et donc là, vous décidez avec d'autres personnes en résistance de faire une performance à Beaubourg.
Une intervention à Beaubourg. Où nous avons donc construit, avec bois aggloméré, à 700 francs de coût, un cercueil qui représentait le cercueil de Malevitch que lui, avant sa mort, a peint sur un de son tableau. Donc en se basant sur sur ce tableau-là, nous avons construit cette cercueil constructiviste qui est identique à celle qui est sur le tableau. Et les dissidents soviétiques qui étaient libérés de l'Union soviétique en échange avec les espions français ont porté ce cercueil au Beaubourg, au premier étage, et déposé devant la tour de Tatlin, reconstruction faite par les Français de projet de Tatlin, un artiste qui a fui l'Union soviétique en Suède avant la guerre. Ce cercueil, nous avons vendu quelques mois plus tard à une enchère d'art qui était en même temps était vendue toutes les affiches de 68 et notre cercueil. Cette cercueil, donc, on a représenté elle-même, plus deux photos de style publicitaire sur lesquelles il était écrit « Vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur à l'extension de feu, un cercueil. » Offre cet cercueil pour cadavre politique. Sans sépulture. Adresse Paris, Moscou, Genève.
Et là, Beaubourg réagit comment à votre intervention dans le...
On n'était pas agressés.
Non.
On était trop nombreux. C'est-à-dire qu'il y avait 60 de personnes, entre autres Glucksmann, Alter, les grandes personnalités de la vie intellectuelle de Paris. Donc, Beaubourg a mis ses oreilles en bas.
D'accord. C'était Éric Truffaz, Out of Dream. Vous êtes toujours sur Radio Diwa, sur le 107.5. Et nous sommes toujours avec Elisabeth Cheslar et Émile, qui est ici présent dans le studio, et qu'on entendra une prochaine fois, certainement la semaine prochaine, évoquer et parler de votre parcours. Et on précise évidemment que tout ce que tu racontes jusqu'à maintenant, Elisabeth, ça s'est fait avec Émile, et toutes les œuvres que vous avez créées sont des œuvres que vous avez créées ensemble et qui ont été réfléchies ensemble. Donc effectivement, c'est un parcours, on va dire, d'un couple d'artistes.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, nous étions arrêtés au moment du tombeau de Malevitch, déposé au centre Bombourg en 1980. Et à Paris s'ouvre une nouvelle ère pour vous, qui est en continuité avec ce que vous avez vécu, évidemment, en Pologne, qui était un moment de résistance aux côtés du syndicat Solidarność, qui a été interdit par le coup d'État de Jaruzelski. Et là démarrent des années de lutte politique à partir de la France, et tu fais plusieurs voyages en Pologne, certains très courts, mais toujours en aide avec la Pologne.
Oui, c'est que à cette époque, il existait déjà un comité de solidarité avec la Solidarność, avec syndicat Solidarność, qui était donc qui regroupait les Français qui pensaient que les revendications des ouvriers et d'intelligentsia polonaise étaient même que eux ils voudraient bien mettre en France. Donc le soutien de la population française à l'époque était énorme. Et moi, j'ai été donc une des membres créateurs de ce comité que, avant coup d'État de Jaruzelski, comptait une dizaine de comités sur tout le terrain de la France, tandis qu'après le coup d'État, c'était des centaines de petits groupes de personnes qui n'étaient pas polonais, qui étaient français, et qui cherchaient à trouver une aide intelligente pour les gens qui résistaient dans ce pays contre le régime. Et intelligence, c'était de donner les moyens d'expression à ces personnes. Donc on s'occupait de chercher les imprimantes, on cherchait aussi des sous pour que ces gens n'ont pas de problème parce qu'il était économique, parce qu'il était licencié de leur travail. Ils sortaient souvent juste de prison. Et cette forme d'action de matériel était très importante. L'autre partie, c'était aide intellectuelle. On produisait les informations sur fonctionnement de capitalisme et de façon comment il s'impose dans les pays comme Brésil ou en Afrique pour dire qu'est-ce que c'est FMI, qu'est-ce que c'est l'aide entre guillemets occidentale aux pays dans les difficultés des régimes.
Alors ça veut dire que vous aviez comme ça une réflexion critique aussi bien du côté de ce qui s'appelait le communisme, enfin ces régimes totalitaires, et en même temps aviez une réflexion critique sur ce qui était le capitalisme et de la façon dont vous le perceviez.
Tout à fait, mais je dois souligner que nous avons fait cette recherche en compagnie des Français.
Oui,
c'était pas nous qui ont eu ce savoir, nos amis français qui cherchaient ces documents, qui les produisaient, et que moi, comme courrier, apportais au chef de clandestinité polonaise.
D'accord. Et donc, voilà, il s'est déroulé jusqu'en 1988, au moment de la chute du mur de Berlin. 89, pardon. La lutte politique, on va dire, s'est arrêtée, s'est clôturée. Enfin, elle a abouti, pour vous. elle a abouti. Cette période était marquée par moins de création artistique parce que vous étiez énormément impliqué dans cet activisme politique. Et donc, on va pas l'évoquer parce que l'histoire est passionnante, mais on va plutôt faire le saut sur votre arrivée à Valorcine, dans la vallée de Chamonix, en 1994, si je ne me trompe.
Oui, oui, tout à fait.
Et là s'ouvre à vous un nouveau moment de votre vie, peut-être plus paisible, parce que là, tout d'un coup, la lutte politique s'arrête et vous pouvez vous consacrer à des créations artistiques que jusque-là étaient un peu mises de côté parce que l'urgence était ailleurs.
Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, nous sommes arrivés à la situation que, d'une part, nos enfants ont grandi. On n'avait pas obligation de gagner les sous pour 5 personnes, mais que pour 2, ce qui change énormément. Ils nous laissent donc le temps de faire l'art librement.
Et là, donc l'art librement, qu'est-ce que tu produis ? Je dis tu parce que Émile évoquera son travail.
On a décidé tous les deux que chacun reprend son chemin individuel. Et moi, quand je rêvais toujours habiter en montagne, et c'est justement ce qui m'arrivait par la chance, habiter à 1350 mètres dans un chalet de 17e siècle, avec le super chêne de Mont Blanc devant mes fenêtres. Et je me posais la question pourquoi je suis heureuse dans cet endroit-là. Et j'essayais de répondre par présentation de relations de mon corps à la nature. C'est peut-être ça qui était à la base de mon intervention par les sculptures qui permettent à tout le monde de rentrer dans la vie d'un arbre ou dans la vie d'un chamois.
Justement, il y a donc cette œuvre qui s'appelle « L'homme animal, le corps dans l'espace », c'est en 2001. Et donc, il y a ce cours, donc, toujours dans le catalogue, il y a ce cours commentaire qui dit « Enfiler sur soi la peau de chamois, monter l'escalier de la sculpture et introduire sa tête dans le creux du masque de façon à pouvoir regarder par les deux ouvertures. » Donc, tu fais donc, ce travail d'interrogation sur ce qui marque une différence entre l'homme et l'animal et tu invites à changer de peau.
À changer l'existence, à changer l'existence. Ouais. S'interdire à certains moments d'être homme de culture, être homme de toute culture qui nous précède et qu'on connaît par des livres, qu'on connaît par les relations du travail ou l'autre relation sociale, et devenir animal comme nous sommes naturellement. D'oublier toute la culture qui peut-être nous interdit d'être nous-mêmes.
Tu fais un autre travail qui est un peu dans cette même lignée. Je vais le trouver, voilà. Ça s'appelle À quatre pattes. Et donc, tu crées une sculpture avec du bois, je précise, où il faut se mettre à quatre pattes et la sculpture en creux dessine ton corps et tu invites le public à prendre position sur ta sculpture et sur le dessin de ton corps. Et le petit commentaire dit « La fille aux cheveux de G dit « La première des neuf positions s'appelle le dragon, changeant. La deuxième s'appelle le pas du tigre. La femme se met sur ses genoux et ses mains, fesses levées, tête basse. L'homme s'agenouille derrière elle et l'enlace par le milieu du corps. » etc. Peux-tu nous expliquer
C'est un très ancien texte chinois. Et avec... Je suis polonaise, j'ajoute avant, c'est évident, depuis le début de cette émission, mais pour dire que ce pays est sur la prise de morale chrétienne qui interdit d'affronter directement notre sexualité. Et j'ai trouvé dans une revue le texte chinoise qui nomme le savoir-faire de sexe qui précise bien les différentes positions pour que ça aboutisse aux joies et épanouissement de deux personnes. Et je me trouvais donc obligée de donner le corps matériel en bois de ce que les Chinois, il y a quelques siècles, ont décrit en mots.
Donc, on comprend bien que ton travail, c'est celui de l'émancipation. C'est celui de déterminer quels sont les lieux de l'oppression, qui sont parfois extrêmement prenantes, mais que l'on a du mal à déterminer. Voilà, la religion, la société, l'espace social, etc. L'espace familial, peut-être aussi. Donc ton travail, c'est comment parcourir un chemin de l'émancipation.
C'est de pousser les murs qui m'entourent. Voilà. De pousser le plus loin possible.
Et ça nous amène directement à Di, car nous devons clôturer cette interview passionnante. Mais on va évoquer le travail que tu fais aujourd'hui à Di, qui est... Alors, vous êtes arrivé à Di en 2009. Nous nous sommes rencontrés car nous avons été voisins. Et c'était notre rencontre qui était assez rigolote, car on s'est découvert voisins et après on s'est découvert artistes. Et donc, Adi, tu as démarré un nouveau travail où tu demandes aux gens d'écrire une phrase sur la question de la liberté de la contrainte.
Bah, tout à fait. J'arrive à un endroit que je connaissais depuis 2003, où j'ai exposé une autre présentation du travail de mes collègues polonais sous titre Liberté, Responsabilité. Liberté, Responsabilité. Et que j'ai trouvé à l'époque super accueillant, les personnes qui étaient là-bas. Leur vie me semblait presque
C'était
idéale.
Pour le festival Est-Ouest, juste pour la petite précision, voilà.
Tout à fait. Et je me suis dit, si j'arrive à ce nouvel endroit où les gens vivent quand même de façon très différente qu'à Paris, mm-hmm. ou même à Chamonix, mm-hmm. le lieu de tourisme et de commerce, de montagne, je me suis dit que pour connaître ces gens, il faut que je pose la question qui est la mienne depuis toujours, la liberté et la contrainte. Comme ça, je vais prendre les relations vraies avec ces personnes et pas superficielles par rapport du temps ou d'un événement politique qui bouge à ce moment-là à France. Et donc, je suis arrivée à faire ça. Festival Est-Ouest m'a soutenu et présenté ça, mais j'ai présenté aussi ce travail et j'ai pris la connaissance de plusieurs personnes dans les villages qui entourent Di.
Alors, on va juste évoquer rapidement comment se présente cette œuvre et qui s'appelle. Elle a un nom, j'imagine.
Ah oui, comment il s'appelle déjà?
L'espace
de liberté et de contrainte.
C'est une spirale, un vortex.
Une installation avec le tissu noir
voilà.
de 13 mètres. Une spirale qui a longueur de 13 mètres.
Mm-hmm. Actuellement.
Actuellement. Qui a commencé avec 2 mètres.
Voilà. Et sur lequel tu accroches...
J'accroche les réponses.
Les réponses.
Les réponses des personnes avec leurs photos et leurs noms.
Et là, il y a combien donc de réponses?
86.
86, d'accord. Et là, tu souhaites travailler avec des écoles aujourd'hui, avec on va dire des enfants?
J'ajouterais encore que ces noms, ces prises de position des gens de Diwa sont directement confrontées avec les citations des grands penseurs d'Occidental. Ouais. Cette mise en même niveau d'importance des propos d'un boucher, d'une vendeuse, avec les grands depuis la Grèce, me semble un geste important de donner l'importance aussi à chacun de nous.
Ouais. de ne pas rentrer dans un cadre de hiérarchie.
Tout à fait.
Qui fait qu'il y a une parole surplombante et qu'il y a des paroles qui auraient moins d'importance.
C'est voilà. Ça. Ouais.
Bien, merci Elisabeth.
Merci Olivier.
Émile sera interviewé très prochainement, j'espère la semaine prochaine. On pourra découvrir leur parcours à tous les deux à travers la voix d'Émile et certainement on découvrira aussi son travail très particulier, son travail de couleur. Voilà, je suis très content que vous ayez été nos premiers invités. À bientôt, merci.
À bientôt.